BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Alors au sommaire ce week-end, eh bien une nouvelle étape décisive pour Carmat, le spécialiste des cœurs artificiels. Depuis quelques jours, un patient italien vit grâce à ce cœur made in France. Cette première commercialisation devrait en amener beaucoup d'autres à la fois en Europe mais aussi aux États-Unis. Ce cœur Carmat, eh bien, il est tout simplement français. Et simplement français, c'est aussi le nom d'un site lancé récemment et qui ne propose à la vente que des produits du quotidien fabriqués en France. Camille Girard, sa jeune fondatrice, la jeune fondatrice de Simplement Français, est donc avec nous en plateau dans la France à tout pour réussir. Enfin, en ces week-ends extrêmement chargés sur les routes, on vous reparlera des lunettes connectées LCLC. Elles permettent de prévenir le conducteur d'un endormissement en cours. Elles ont aussi bien d'autres fonctionnalités et on en parlera à la fin de l'émission. Mais tout d'abord donc une question, quel bilan pour le plan de relance lancé il y a tout juste un an à la sortie du premier confinement? Lundi dernier, le gouvernement a présenté ce bilan au Parlement. Eh bien, il en ressort qu'à la fin juin, 40% des 100 milliards d'euros avaient déjà été injectés dans l'économie et que 5 milliards ont été réaffectés vers les mesures les plus efficaces. Les détails donc de ce bilan avec Thomas Asportas.
40 milliards d'euros sont engagés à la fin juin et le gouvernement se félicite d'avoir enclenché du coup 40% de son plan avec 6 mois d'avance. L'exécutif vise désormais les 70% d'ici à la fin de l'année grâce au succès de 3 dispositifs. Le soutien à l'industrie, 2 milliards d'euros étaient prévus dans le plan de relance. L'État a rajouté 1 milliard supplémentaire pour financer les projets de relocalisation et de numérisation de près de 2000 entreprises. Autre succès, MaPrimeRénov', près de 400 000 particuliers ont déposé un dossier depuis le début de l'année pour rénover leur logement. C'est le double du volume de toute l'année dernière. L'État avait prévu pour le dispositif 2 milliards d'euros sur 2 ans, mais tout va être dépensé cette année et MaPrimeRénov' aura 2 milliards supplémentaires l'année prochaine dans le budget. Enfin, l'État a prolongé son dispositif Un jeune, une solution jusqu'à fin mai pour l'embauche de jeunes de moins de 26 ans et jusqu'à la fin de l'année en apprentissage, avec à la clé une rallonge de 2 milliards et demi d'euros. Au total, 5 milliards d'euros ont été redéployés dans cette première année du plan de relance au profit de ces mesures, vous l'avez compris, et financés du coup par des dispositifs moins sollicités que prévu, comme par exemple l'activité partielle de longue durée, puisque le chômage partiel classique est toujours en cours, les primes à l'achat de véhicules propres, puisque le marché de l'automobile n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise, ou encore plusieurs prêts de crise aux entreprises qui n'ont pas été sollicités avec le maintien des PGE jusqu'à la fin de l'année.
Et puis je vous lisais en titre, ça y est, c'est fait, depuis une semaine, le cœur artificiel français Carmat est disponible à la vente. C'est le centre hospitalier de Naples en Italie qui s'est porté acquéreur pour l'implanter sur un patient qui est en attente d'une greffe. Alors cette première commercialisation a d'ailleurs été saluée par la bourse et après des essais d'années cliniques, eh bien place maintenant à la phase commerciale. Les besoins, que ce soit en France, en Allemagne ou même aux États-Unis, sont gigantesques. Stéphane Pia, le directeur général de Carmat, était lundi dernier l'invité de Guillaume Paul dans Good Morning Business.
Le premier patient qui est arrivé est un patient de Naples, donc on a été certains d'entre nous à Naples jeudi, en salle, une opération qui s'est très bien passée, maintenant on maîtrise très bien la procédure comme à Duke, et puis le patient est extubé après 2 jours et il va très bien, donc on est tous très contents.
Ça y est, vous avez vendu officiellement votre premier cœur artificiel. Il a un petit nom votre cœur, il s'appelle pas Carmat, il s'appelle Ison.
Tout à fait.
C'est quoi Ison? C'est un dieu grec, c'est ça?
Oui, c'était donc, c'est la mythologie grecque. Donc c'est quelqu'un qui a été tué et qui est revenu à la vie plus jeune qu'il ne l'était avant d'être tué.
Il faut quand même, on va parler évidemment du présent et de l'avenir. Stéphane Pia, il y a beaucoup d'échéances maintenant, beaucoup de paris, beaucoup de défis pour Carmat. Mais revenir sur cette aventure qui a débuté. C'est 2013, je crois, la première greffe expérimentale, c'est ça?
Oui, tout à fait.
À côté d'ici, à l'hôpital Georges Pompidou, c'est ça, effectivement. C'est là que ça a commencé véritablement, avec un patient qui avait survécu quelques semaines à l'époque.
Oui, quelques semaines, il y avait un problème sur la carte électronique, comme il arrive souvent en début de développement de technologie.
Et puis après, il y a eu des avancées, des avatars aussi, interruption des essais cliniques en 2016, en 2018. Et puis c'est reparti, puis la certification européenne en fin d'année dernière, et puis
tout
là, ça y est, l'aventure commerciale. Voilà, c'est ça. C'est une année effectivement riche en émotions. Il fait quoi votre cœur ?
Ça fonctionne comme un cœur humain. C'est une avancée incroyable. C'est quelque chose que les gens attendaient depuis des années. Pulsatilité, hémocompatibilité, autorégulation. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas, dont on a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, quand on écoute le chirurgien de Dieu, qu'il a dit qu'il fallait un besoin de 96 000 carmates par an aux US. C'est la même chose en Europe. 100 000 patients par an qui ont besoin d'un cœur et qui meurent. Et 4000 donneurs, donc l'équation elle est simple.
Mais c'est ça le problème, effectivement. Et alors l'autre défi qui commence pour vous, alors aventure médicale, défi médical depuis des années, défi industriel désormais pour vous, pour augmenter la production. Qui en est où aujourd'hui? Alors, donc, votre usine elle est à Vélizy.
Alors, le siège est à Vélizy, l'usine est à Bois d'Arcy. On a une capacité à 350-400 vraiment en utilisant chaque mètre carré, et on est en train déjà de travailler sur l'extension... qui se pourrait être prête l'an prochain. On va décider au board des directeurs en septembre la solution qu'on va suivre, mais elle est déjà identifiée. Je pense que c'est une bonne solution, donc on va pouvoir étendre dès l'an prochain.
Aujourd'hui, vous en produisez combien par mois des cœurs artificiels?
Aujourd'hui, on est grosso modo à 10 par mois. 10 en par fin mois. D'année, 20 par mois. Et l'an prochain, après, on va pouvoir faire un ramp-up.
Ce cœur que vous avez implanté à un patient italien, je vais poser la question qui fâche, vous l'avez vendu combien?
Alors, le cœur, il est grosso modo, parce qu'on n'a jamais donné de chiffre, mais c'est grosso modo 200 000 euros, c'est 200 000 plus euros. Que deux pompes, parce qu'on fait on rend un service qui est supérieur à deux pompes, plus l'autorégulation, etc., etc.
Est-ce que le point mort va être amorti? Est-ce que vous dites à l'horizon de quelques années le prix?
Oui, alors notre but, bien sûr, parce que c'est, comme vous le disiez, c'est une aventure industrielle, donc on ne peut pas non plus faire des augmentations de capital toute notre vie. Donc notre but, c'est d'arriver à une capacité d'autofinancement dans quelques années. Donc maintenant, on a deux objectifs, c'est bien sûr travailler sur les ventes et réduire les coûts de production le plus vite possible. Donc il y a un marché, il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de nouveaux entrants.
Il y aura d'autres carmates dans les prochaines années pour vous?
Alors, quand vous avez commencé, j'allais vous interrompre. En 2008, il y avait 5 sociétés qui ont démarré. On est la seule commercialisée et qui implante dans l'humain. Les autres sont encore sur des bancs d'essai ou dans les animaux. Carmat a fait un job exceptionnel, et donc on a une avance monstrueuse, et on a une avance monstrueuse en termes de timing, mais non seulement, également au niveau technologique.
Et je précise que le week-end prochain, dans le cadre des séries d'été de la France à tout pour réussir, eh bien, nous évoquerons justement les plus beaux succès de ce qu'on appelle les medtech françaises ou les biotech françaises. Nous reparlerons notamment de Medadome, de ID Solutions, e-virtuel ou encore le très ambitieux projet de recréation de peau humaine. Ça s'appelle le Genesis et c'est co-développé par le groupe industriel français Urgo. Alors après les medtech et les biotech, eh bien, place à une agtech, une start-up, de l'agriculture. Elle s'appelle Gaiago. Elle vient de lever 13 millions d'euros pour développer ses produits. Il s'agit de biostimulants qui permettent de revitaliser les sols. Gaiago, avec l'argent levé, veut se développer en Europe. Jean-Pierre Princen, le président de Gaiago, était il y a quelques jours l'invité de François Sorel dans Tech & Co.
Gaiago fabrique en fait des produits, des solutions naturelles qui permettent de revitaliser les sols et les agrosystèmes.
Sans produits chimiques qui ne sont pas bons pour la planète. C'est-à-dire que ça va être des bactéries, ça va être des choses comme ça qui vont...
En fait, vous avez deux types de produits, des prébiotiques qui ne comprennent pas d'éléments naturels de vie, et des probiotiques qui sont essentiellement des bactéries. Et en fait, nos produits rééquilibrent le sol pour aller plus vers les sols comme les forêts au départ, si vous voulez, avec davantage de champignons et moins de bactéries. D'accord. Et en fait, ce sont les champignons qui produisent l'humus. Et l'humus, c'est ce qui permet aux plantes d'aller chercher la nourriture.
Comment le soft, en fait, et comment la tech rentre en jeu, en fait, dans Gaiago, en fait, et comment, grâce à une appli mobile ou à du soft, on arrive à détecter, justement, ce sol qui est pauvre ou pas?
Alors, simplement, les agriculteurs font aujourd'hui des analyses de sol, depuis longtemps. Ils sont obligés de le faire, d'ailleurs, des analyses de leur sol. Et ce qu'il faut regarder...
Pour voir s'ils n'ont pas de polluants, notamment.
Pardon ?
Pour voir s'ils n'ont pas de polluants aussi.
Pour ne pas polluants, mais surtout pour voir s'ils ont les ingrédients nécessaires pour que la culture puisse pousser. Et en particulier les engrais, les fertilisants. Et donc, nous, on regarde ces analyses de terre avec un prisme un peu différent. C'est-à-dire qu'on regarde ça avec les équilibres minéraux. Et la première recommandation qu'on fait à un agriculteur, c'est de rééquilibrer son sol sur le plan des minéraux. Et ensuite, on travaille sur la vie du sol. Et c'est là que nos produits, nos solutions arrivent pour redynamiser le sol. Et donc, suite à l'analyse digitale que nous avons faite, nous préconisons donc des produits de revitalisation du sol qui permettent donc de aux agriculteurs qui pratiquent ça depuis 3-4 ans maintenant, de diminuer leur charge opérationnelle et donc de mettre moins de produits, comme vous disiez, phytosanitaires par exemple, et moins d'engrais également, et d'augmenter leur rendement, de déplafonner les rendements.
Et c'est grâce à ça, à ces critères d'impact, que vous avez levé ces 13 millions, à votre avis ?
Oui.
D'accord.
Oui, en partie. Ce sont des gens
alors cet argent va servir à quoi pour terminer, Jean-Pierre ?
Alors, l'argent va servir à l'expansion européenne essentiellement, d'accord, parce qu'aujourd'hui notre base est essentiellement française. Donc c'est de répandre dans toute l'Europe nos solutions, d'accord, et donc de construire des équipes européennes et aussi renforcer nos équipes françaises, bien sûr, pour aller plus loin, plus vite.
Combien faut-il d'années pour revitaliser un sol ?
On estime qu'il faut 2-3 ans avec nos produits.
D'accord, ok.
Et on va rester dans les solutions françaises en faveur d'une économie plus durable en parlant de recyclage des produits électroniques. On connaît notamment la licorne française Back Market, qui est une place de marché. Et bien voici à présent Yes Yes, un joli nom pour cette start-up française qui, elle, fait en quelque sorte elle-même le recyclage des produits, smartphones mais aussi des consoles de jeux. Et elle propose en plus un service client plus poussé à l'occasion d'une levée de fonds de 2,7 millions d'euros. David Mignot, le cofondateur de Yes Yes, était lui aussi sur le plateau récemment de Tech & Co.
Nous, la garantie qu'on apporte, c'est que, un, on source nous-mêmes les produits le plus directement possible auprès de particuliers. On les reconditionne chez nous, donc on fait tous les tests et les réparations nécessaires. Et on les revend ensuite sur notre site, yes-yes.com, dans notre boutique, puisqu'on a un concept d'atelier boutique, justement, qui est là pour rassurer les consommateurs, avec une garantie de 2 ans.
D'accord. Plus cher, évidemment, ou pas, vos smartphones reconditionnés, parce que comme ils sont faits maison, le fait maison coûte plus cher, et comme j'imagine aussi que vous sourcez les pièces détachées, etc., etc., est-ce que un iPhone 7 va être plus cher chez vous que chez Back Market ou chez d'autres concurrents?
Et plus cher, je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas la réponse à ça. Ils sont pas forcément plus chers. En tout cas, nous, on apporte une garantie de qualité. D'accord. On apporte une garantie de 2 ans. On apporte une garantie dans la relation client, puisque nous assurons notre propre relation client. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, quand vous achetez sur une plateforme, et que vous voulez rentrer en contact avec un vendeur, c'est compliqué. Nous, si vous voulez nous contacter, vous nous dites je vais être rappelé. C'est Alicia, c'est Gérald qui vont vous rappeler. On vous écrit des mails, ce sont pas des emails automatiques, il y a pas de chatbot, donc on est dans cette démarche-là. Donc le prix.
Vous êtes un vrai commerçant.
On est un vrai commerçant avec une vraie relation humaine sur un sujet qui est important. On se parle de smartphones. Vous savez combien les smartphones sont importants aujourd'hui, et donc s'il y a quoi que ce soit, nous sommes là pour pouvoir répondre à toutes les questions.
Évidemment, ce marché est trusté par les iPhones. Hein. On est d'accord, ça représente
c'est
quoi?
C'est 90% des ventes à peu près.
90% des ventes des iPhones, et le reste c'est Samsung?
Le reste c'est Samsung, tout à fait.
Les Galaxy, des choses comme
ça. Les Galaxy S principalement, les produits haut de gamme, parce que par définition, on a des produits haut de gamme qui deviennent plus abordables une fois qu'ils sont reconditionnés, donc c'est véritablement ces deux marques-là qui dominent le marché.
Ce qui est intéressant, c'est que vous reconditionnez pas que les smartphones. Les consoles de jeux aussi.
On fait également des consoles de jeux, notamment la PS4, puisque la PS5 est sortie fin d'année dernière. Il y a plus de 6 millions de PS4 qui sont sur le marché français. Ouais. Et donc se pose la question de que deviennent ces PS4 alors qu'elles fonctionnent encore très bien.
Surtout si on a acheté la PS5.
Et surtout si on a eu la chance d'avoir la PS5, ce qui a été difficile pour l'instant, mais qui va s'améliorer.
C'est toujours difficile.
Bien évidemment. Ouais. Et donc nous reconditionnons les PS4 dans notre atelier et que nous revendons sur notre site. Alors, on a commencé par la PS4, ouais. On va continuer par la Nintendo Switch et également
que vous allez mettre en reconditionné aussi.
Tout à fait, et les Xbox de l'ancienne génération qui vont être reconditionnés prochainement.
Et pour cette dernière émission de la saison de La France à tout pour réussir, eh bien, j'ai tenu à mettre en avant une initiative portée par une très jeune entrepreneuse française. C'est Camille Girard. Bonjour Camille.
Bonjour, enchantée, merci.
Et je vous en prie, merci donc d'être venue de Lyon, puisque vous êtes installée à Lyon, vous êtes originaire de Valence. Vous avez créé, on va donc en parler dans quelques instants, un site qui s'appelle Simplement Français. Mais ce qui m'intéressait aussi dans cette invitation et dans votre venue, c'est, vous êtes très jeune, je l'ai dit, c'est l'engagement l'engagement de votre génération, celle qu'on appelle, alors je ne sais plus X, Y, Z, mais en tout cas qui est une génération d'un monde mondialisé, globalisé, eh bien vous croyez encore, vous, à votre âge, et ça me rassure, à ce qu'on appelle un peu peut-être le patriotisme économique. Expliquez-nous cet engagement dans votre génération.
Oui, bah en fait, je trouvais que ça n'avait pas de sens d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et je pense que la jeune génération se pose de plus en plus quand même cette question-là de l'aspect éthique des produits et de sa consommation. Et du coup, ça me semblait logique, en fait, à la fin de mes études, quand je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être avoir un peu plus de pouvoir d'achat qu'une étudiante que j'étais. Et je me suis dit, bah, il faut que ma consommation colle à mes valeurs. Et donc, c'était le moyen de le faire, c'était de le créer, puisque ça n'existait pas. Et donc, voilà.
Vous parlez de vos études. Quels étaient votre parcours d'études?
Alors, moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à l'UT de Valence. Et après, j'ai fait l'ESDES avec un master marketing digital en alternance pour prendre sur le terrain.
Et à l'heure actuelle, donc, vous faites partie de Lyon Startup, du programme Lyon Startup, et vous êtes incubé à la Manufactory. Racontez-nous un peu votre parcours à l'heure actuelle.
J'avais pris un CDI à la fin de mes études que j'ai finalement quitté, et donc j'avais raté le coche des incubateurs, donc j'ai avancé toute seule pendant un petit moment. Et quand j'ai eu la possibilité d'intégrer les incubateurs par la prochaine rentrée, entre guillemets, et ben c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis retrouvée et à Lyon Startup et à Manufactory, et c'est un vrai plus au quotidien.
Et vous incubez donc Simplement Français, c'est ce site dont on va parler. C'est quoi le concept de Simplement Français?
Alors le concept, en fait, c'est de faire une grande surface en ligne de produits de consommation courante entièrement fabriqués en France, parce que comme je le disais, en fait, je ne trouvais pas à la fin de mes études, quand j'ai eu envie de mieux consommer, de produits qui soient réellement fabriqués en France dans les grandes surfaces. Et je me suis dit, ça manque de sens, parce qu'à l'heure actuelle, on nous invite à consommer français, et si derrière on ne le retrouve pas dans les grandes surfaces, c'est dommage. Et donc du coup, en fait, c'est comme ça que m'est venue l'idée, puisque donc Simplement Français, c'est une grande surface en ligne avec, je l'espère un jour, vocation à devenir magasin physique.
Absolument. C'est dans les cartons à quelle échéance?
C'est dans les cartons. Moi, j'espère d'ici à 10 ans avoir des points de vente physiques comme aujourd'hui il y a les grandes surfaces ou les magasins bio.
Alors à l'heure actuelle, en ce mois de juillet 2021, donc le site il a 2 mois.
Oui.
Les chiffres clés, combien de marques, combien de produits référencés et quelle est l'évolution de ces chiffres clés dans les prochains mois?
Alors actuellement, on a 35 marques pour 360 produits, et donc on va intégrer des nouvelles marques à partir de septembre. L'objectif, c'est de faire rentrer le plus de références possible. On pourrait avoir plus de 5000 produits à l'heure actuelle, donc ça va être ça, et de monter crescendo, sachant que là on a déjà plus de 130 marques partenaires qui sont en attente, parce que donc on est sur un modèle d'achat-revente, donc il faut de la trésorerie, donc augmenter au fil du temps. Oui.
Donc ces marques et ces produits, c'est quel type? Est-ce que c'est dans quel secteur? Quand vous dites des objets ou des biens de consommation du quotidien, c'est quel type de produit?
Alors, c'est des biens de consommation courante, donc ça va de tout ce qui est hygiène beauté, donc ça va être le gel douche, le shampoing, ça va être aussi tout ce qui est entretien et nettoyage avec votre liquide vaisselle, votre lessive, ça va être aussi tout ce qui est pour la cuisine, les éponges, enfin, ça passe vraiment par tout ce qu'on achète au quotidien quand on fait ses courses. Ça va jusqu'aux croquettes, à la brosse WC, le sujet un peu rigolo, mais voilà.
Mais pas d'alimentation.
Non, pas d'alimentation.
De l'alimentation pour les chiens et les chats, donc, mais pas pour les êtres humains. Pourquoi?
Alors, en fait, l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, c'est pas facile d'acheter sa lessive 100% fabriquée en France ou localement. Par contre, acheter ses tomates fabriquées localement, ça, c'est assez simple. Donc, du coup, c'était de dire, on vous permet d'accéder facilement à ce type de produit-là et on vous encourage, via la livraison en point relais, à aller chercher votre colis en point relais, passer au marché ou dans les commerces de proximité pour acheter les produits alimentaires.
Et ces produits, donc, sauf les produits alimentaires, donc, vous les sourcez comment? C'est quoi le critère? Est-ce que le seul critère, c'est le fabriqué en France, ou est-ce qu'il y a d'autres critères, d'autres valeurs derrière Simplement Français?
Alors, il y a plus de valeurs que ça. Moi, en fait, je fais partie peut-être de la génération qui avait besoin de cette transparence, qui aime savoir où est réellement fabriqué le produit, tous ces aspects-là. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller plus loin que la seule mention fabriquée en France ou que le label Origine France garantit. Et pour ça, j'ai mis en place la belle note, qui en fait répertorie pour chaque marque tous les lieux qui constituent les étapes de chaîne de fabrication du produit sur une carte de France. Et après, en fait, ça nous permet d'attribuer une note aux marques. Pour l'instant, il n'y a que des excellentes notes, puisqu'on fait quand même pas mal d'écrémages.
C'est de 1 à 10, de 1 à 20.
C'est pas de 1 à 10, d'accord. Mais l'objectif, en dehors de la note, c'est surtout de voir cette carte et pour qu'à terme, en fait, on puisse acheter avec la géolocalisation et dire bah, on a acheté une lessive qui est fabriquée à Brest parce qu'on habite à Paris, qui n'avait pas plus près, plutôt qu'une qui est fabriquée à Nice parce que c'est plus loin, quoi.
Qui sont vos premiers clients? Vous les avez identifiés? Vous savez qui est sensible à toutes ces valeurs que vous défendez?
Alors, les premiers clients, c'est des gens qui nous ont déjà soutenus sur la campagne de financement participatif l'année dernière. Il y a un peu de tout, en fait. Au début, on pensait qu'on allait avoir plus des gens qui étaient déjà sensibles à cet aspect-là. Et en fait, on se retrouve aussi avec des gens qui ont juste envie de consommer français sans forcément dépenser plus. Et c'était vraiment ma volonté de départ, c'est-à-dire acheter français, c'est pas forcément plus cher. Donc, on a référencé un peu de tous les prix pour un même type de produit. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour l'instant, tout part. Donc, c'est assez...
et il faut que ça parte, parce que vous parlez de votre modèle économique. Vous n'êtes pas une marketplace, non. Vous n'êtes pas une place de marché, pour parler français. Vous achetez donc les produits, vous les revendez, ce qui nécessite et du stock et de la trésorerie. Expliquez-nous cela.
C'est ça. En fait, moi, je ne voulais pas être une marketplace comme on en voit qui fleurissent assez régulièrement. Pourquoi? Parce que quand on va livrer le colis du client, déjà, quand on fait ses courses, on va acheter en moyenne 6 articles par panier. Donc, si vous achetez 6 produits de 6 marques différentes, si vous êtes sur un mode de marketplace, vous allez recevoir 6 colis. Si vous n'êtes pas chez vous, ça va faire des avis de passage, etc. Enfin, donc, c'est un peu compliqué. Donc, je voulais vraiment pouvoir tout expédier d'un seul et même endroit. Donc, le mieux, ce qui s'est présenté, c'était de faire de l'achat-revente traditionnel. Et comme la vocation du projet à terme, c'est quand même d'ouvrir des points de vente physiques, et ben, c'est quand même mieux d'avoir son stock.
Et votre pourcentage sur chaque vente?
Ça dépend, en fait. Il y a des projets sur lesquels on marge plus que d'autres. En moyenne, on est à 40-60%.
Il nous reste quelques secondes, juste sur votre modèle de financement. Donc aussi, vous nous avez parlé de financement participatif l'année dernière. Il y a des levées de fonds qui se préparent, une levée de fonds qui se prépare. On en parle beaucoup, nous, dans cette émission. Est-ce qu'on parlera de vous en levée de fonds d'ici quelques mois?
Et ben, je l'espère. Normalement, ça va. C'est en train de rentrer dans les cordes, là, et c'est prévu peut-être pour 2022.
Et un tout dernier mot, vous étiez début juillet à l'exposition Produire en France au Palais de l'Élysée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est bien, c'est motivant. On se retrouve entre gens qui ont les mêmes valeurs, hein, c'est bien ça?
Ouais, totalement. Et surtout, on se rend compte qu'on fabrique vraiment de tout et que ça n'a vraiment pas de sens d'aller à l'autre bout du monde pour sourcer plein de choses, parce qu'au final... Enfin, quand je vois qu'on avait des miroirs de satellite à côté de cornichons, vraiment, on fait de tout, quoi.
C'est ça, la France, voilà. C'est ça. Et c'est donc simplement français. C'est donc le site que vous avez lancé il y a quelques semaines, quelques mois. C'était en mai 2021. Je vous incite à vous connecter et à découvrir donc ces produits. Merci beaucoup, Camille Girard, d'avoir été la dernière invitée de la saison de La France a tout pour réussir.
Merci beaucoup à vous.
Et on va terminer cette émission avec des lunettes qui peuvent, elles, s'avérer extrêmement utiles en ces périodes de forte circulation routière. Elles s'appellent LCLC, lunettes qui permettent notamment de lutter contre l'endormissement au volant. Alors, ça fait longtemps que l'on suit sur BFM Business les aventures entrepreneuriales de Philippe Perrard dans le domaine de la lunette connectée. Le projet vient même d'être désigné comme un des 15 lauréats de la fabrique Aviva, dont on parlait ces dernières semaines dans cette émission. Les lunettes LCLC comportent de nombreux capteurs. Écoutez les explications donc de Philippe Perrard.
La quinzaine de capteurs qu'on a vont nous permettre de récupérer des données physiques, physiologiques, environnementales. Ça va être traité par algorithmes d'intelligence artificielle qui vont pouvoir lancer des alertes si besoin. Le premier cas d'usage qu'on avait lancé, c'est celui qui tient lieu de surveillance de la somnolence. Et là, on va tout simplement comptabiliser les clignements de paupières qui sont les signes annonciateurs, justement, de cet endormissement qu'on a. Et donc, vous le voyez...
Je me mets en scénario, alors je...
Voilà. Vous voyez en direct ce qui se passe sur mes yeux. Oui. Là, par exemple, j'ai cligné une fois des yeux.
Vous savez qu'on est aussi à la radio.
Deux fois.
Il faut quand même expliquer ce qui se passe. Vous avez votre téléphone et quand vous clignez des yeux, bien sûr, on voit sur l'application...
Exactement, les patterns qui apparaissent.
C'est ça.
Ces patterns apparaissants vont pouvoir être justement...
Analysés,
reconnus.
Et quand je commence à cligner beaucoup plus que d'habitude...
Exactement, ça va lancer...
Qu'est-ce que je fais? Je reçois une décharge électrique?
Alors, vous ne recevez pas une décharge électrique, mais vous recevez effectivement des alertes qui vont aller croissant en fonction de votre niveau d'endormissement. D'accord. La lunette va commencer à clignoter très légèrement, oui. puis plus fort avec aussi
alerte endormissement.
Un lien
soyez vigilant
avec le smartphone.
Là, il faut s'arrêter sur le bas-côté de la route.
Alors alerte là, endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible.
Nous sommes de vous arrêter. Et enfin, le festival, c'est la lunette qui va, je dirais, faire oui, des flashs rouges ouais. et une sonnerie. En même temps, on va voir la possibilité d'envoyer des messages aux passagers de la voiture, ou pour ce qui me concerne, à ma femme ou à ma belle-mère.
En espérant que le passager ne dorme pas.
Exactement. Et sinon, un service de téléassistance qui, 24 heures sur 24, va pouvoir vous contacter en disant « Attention, vous êtes en train de piquer du nez. À 2 km, il y a une aire de repos. On parle avec vous. » Et là, vous allez pouvoir vous reposer.
Alors, plus de 20 000 lunettes vendues. Vous avez été distingué au fameux CES, hein, le Consumer Electronic Show de Las Vegas, en 2019. On s'en souvient, on s'était rencontrés à cette époque-là. Ce qui est intéressant, c'est que vos lunettes ont plusieurs applications, en fait, grâce à ces capteurs. Donc, elles ont d'autres usages. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Alors, effectivement, on a eu cette première verticale qui était l'endormissement. La deuxième verticale qui est dédiée à la chute. Détection de chute pour les personnes âgées ou ce qu'on appelle les travailleurs isolés. On va pouvoir effectivement contacter tout de suite
SOS déclenché,
si les vous allez bien, secours qui vont aller bien évidemment des dents jusqu'à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, un service de téléassistance.
Où est-ce qu'on trouve vos lunettes?
Alors nos lunettes sont distribuées pour l'instant chez les opticiens dans le premier réseau français qui est le groupe Optique 2000 avec 1200 boutiques, donc à proximité de chacune et chacun d'entre nous. En plus, un produit 100% français.
Voilà, et qui en plus permet de mieux voir, parce que ce qu'il y a de cool, c'est que c'est des lunettes quand même.
À la base, c'est ça, effectivement.
Ça coûte combien?
Aujourd'hui, on est à moins de 300 euros en boutique chez Optique 2000.
Voilà donc, et ainsi s'achève le tout dernier numéro de la saison 5 de La France à tout pour réussir. Mais je vous le disais, on se retrouve tout au long du mois d'août avec nos séries d'été consacrées successivement au succès des startups de la santé, puis à l'explosion du nombre de licornes, aux très grosses levées de fonds de 2021. Et enfin, au retour en France, on en parlait avec Camille Gérard, notre invité il y a quelques instants, du Made in France. Et après la saison 5, eh bien, il y aura bien, je vous le confirme, une saison 6 de La France à tout pour réussir. On se retrouve le week-end des 28 et 29 août à l'Hippodrome de Longchamp pour une émission spéciale à l'occasion de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF. D'ici là, bien sûr, très bel été, très belles vacances et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.